Amer Fantôme. Grammaire fantôme. Une émission par Nadia Lichtig. Nous nous trouvons aujourd'hui au sein de l'exposition de Georgia Renevans à l'espace des Mécènes du Sud à Montpellier, 13 rue de Balance. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas Mécènes du Sud, c'est un collectif d'entreprises pour les territoires d'Aix-Marseille et Montpellier-Sète-Béziers. Ce réseau est né de la volonté de stimuler la création artistique contemporaine et c'est dans ce cadre que Georgia Renevans était lauréate d'un de leurs appels à projets. Avant de la retrouver en interview au sein de son exposition « Nos corps anarchiques » qui est vernie la semaine dernière et qui court jusqu'au 6 janvier 2024, quelques mots sur cette autrice curatrice. Le travail de Georgia Renevans s'articule autour des deux axes. Un axe documentaire dans la lignée de l'épistologie féministe et un axe narratif. Depuis 2020, et à partir de son expérience personnelle, elle réfléchit à la possibilité de mettre en place un corpus autre que celui de la littérature scientifique pour aborder, dans un geste émancipateur, l'histoire des corps malades. Ses recherches et écrits s'envisagent comme des expériences de vie où intimité et travail s'interpénètrent. Elle a cofondé en 2021 le Run Space Terzo Fronte, dont la programmation s'est déployée à Rome et Athènes. Grammaire fantôme.
Peut-être on peut commencer à parler un peu de la genèse de l'exposition. C'est a priori pas une ville où tu passes souvent, je crois.
Non, effectivement, c'est pas une ville où je passe souvent. Il s'avère que Mécènes du Sud, chaque année, fait un appel à projet pour financer des projets, donc soit d'artistes, soit de commissaires d'exposition. Pour ma part, en fait, j'avais postulé il y a 2 ans, me semble-t-il, ou il y a 1 an, pour donc ce projet, Nos corps anarchiques, qui est un projet autour de la narration de la maladie, et plus précisément des rapport aux maladies hormonodépendantes. J'avais postulé avec ce projet en tant qu'artiste et j'ai donc eu la bourse de commissaire d'exposition puisque c'est un peu une spécificité aussi de mon travail, c'est que je vogue vraiment entre pratique d'exposition, écriture et parfois production de pièces, donc il y a toujours cette espèce de statut un peu flou qui fait que le travail se situe dans un champ ou dans un autre. Donc j'ai remporté cet appel à candidature qui a permis de produire cette exposition et effectivement je ne suis pas particulièrement familière de Montpellier, mais il s'avère qu'il y a quand même une histoire de la médecine qui est quand même extrêmement forte dans cette ville et que donc en termes de recherche, de point d'ancrage, il y avait quand même un terreau historique assez fertile. Voilà.
Merci. Alors oui, tu es donc à la fois commissaire de l'exposition et aussi représenté par une pièce produite spécifiquement pour l'exposition.
Ouais, absolument, puisque le projet à la base avec lequel j'avais postulé était vraiment un projet de recherche et d'édition, mais c'est vrai que dans mon travail, je tourne souvent autour de la question de la diffusion du texte, de comment on diffuse le savoir qu'on ingère, comment on diffuse la recherche. Et j'arrive et j'essaye toujours de contourner l'objet livre. Donc il y a quelques années, j'avais produit avec la même graphiste avec qui j'ai travaillé ici, Roxane Maillet, un tout petit livre. On avait produit des étiquettes pour vêtements qui étaient aussi un support littéraire. Donc pour ce projet-là, j'avais envie de faire un grand livre. Et l'idée, c'est qu'aussi cette pièce-là, donc, qui est la mienne, soit une pièce qui puisse être pratiquée dans le sens où ça puisse être un espace autour duquel les gens puissent se retrouver pour discuter aussi des problématiques. On parle beaucoup d'endométriose dans cette exposition. C'est vrai que c'est assez rare qu'on fasse des expositions où on invoque un caractère esthétique d'une maladie, ou en tout cas qu'est-ce que les malades, qu'est-ce que ces maladies font à notre culture ou à notre esthétique. Donc voilà, il y avait cette idée que ce livre-là puisse être un espace praticable dans lequel les gens puissent se retrouver, et aussi un objet qui puisse aussi s'augmenter. Donc c'est-à-dire que là, il y a 4 pages qui sont montrées, mais potentiellement, ces 4 pages dans une autre exposition pourraient changer. Donc il y a toujours l'idée d'avoir en fait un récit mouvant et un récit en mouvement.
Donc c'est une installation en cours, elle continue à être écrite, enfin, il y a d'autres pages qui s'ajoutent au fur et à mesure.
Bah, disons, alors elles ne vont pas s'ajouter pendant l'exposition, mais je pense que cet objet-là, cette pièce éditoriale, elle est comme une maladie chronique. C'est qu'une maladie chronique, elle a un début au moment, elle a un début officiel au moment où elle est diagnostiquée par la médecine, mais une maladie chronique, elle n'a pas de fin. Sa vocation en tant que maladie, c'est de se déployer dans le temps. Donc c'est vrai que j'ai pris un peu j'ai transposé cette idée de la chronicité dans cette édition, puisque moi-même, ayant une endométriose, vivant avec une question de maladie chronique, je me suis dit, ma pratique d'écriture se déploie dans le temps aussi avec les expériences intimes mais médicales aussi que je traverse.
Alors dans cette exposition, il y a aussi des positions historiques, Joe Spence par exemple. Est-ce que tu pourrais nous en parler un peu? Donc c'est un travail documentaire autour d'une maladie, d'un cancer.
Pour moi, c'était important. En fait, cette exposition, elle est apparue à un moment où j'étais hospitalisée suite à une chirurgie pour une endométriose. Et je me suis dit, dans mon lit d'hôpital, mais ok, j'ai de la littérature scientifique, mais j'ai pas de repères narratifs, littéraires, esthétiques par rapport à ce que c'est en fait. Les mots du quotidien, le vocabulaire, les ressentis, la sensorialité de vivre avec des maladies hormonodépendantes. Et donc je me suis dit, je vais aller à la recherche de cette communauté, de cette, on va dire, de cette historiographie de sœurs. Et effectivement, j'ai commencé à réfléchir à ce projet, on était en 2018. Et j'ai pas trouvé de narration ou de choses autour de l'endométriose. Donc les œuvres qui existent essentiellement sur ces récits-là, c'est beaucoup des récits autour du cancer du sein. Donc Joe Spence est une figure très importante par rapport à ça, parce que c'est une photographe donc, britannique. Elle, à la base, elle se considère vraiment comme une éducatrice photographique. C'est une personne qui avait un studio photo dans les quartiers populaires de Londres. Elle a beaucoup accompagné, elle a fait un travail beaucoup avec des familles, avec des mères au foyer, pour qu'elles aient aussi un moyen de documenter leur quotidien. Et en documentant et en permettant aux personnes de produire leurs propres images, c'est aussi une forme d'émancipation, c'est une manière de mettre des mots et de rendre visible au monde toutes ces questions, on va dire, du travail gratuit, du travail invisibilisé, de cette quotidienneté. Donc elle avait cette pratique vraiment d'éducatrice photographique, et en utilisant en fait la photographie d'une manière populaire. Et quand elle a eu son premier cancer du sein, elle a commencé à documenter son rapport à la médecine, son rapport à l'hôpital, aussi, Joe Spence c'est un peu spécifique parce qu'il y a le rapport aussi au système de santé anglais, qui n'est pas du tout le même par rapport à la question de la sécurité sociale. Le NHS n'est pas aussi performant que la sécurité sociale l'est pour le moment en France. Donc voilà, il y a toute une question aussi vraiment de classe et d'accès aux soins dans son travail. Et c'était important pour moi de montrer ça, parce que Joe Spence, elle a vraiment proposé aux malades de prendre la possibilité de prendre en main aussi le rapport à l'image de leur maladie, en leur passant des appareils photo à l'hôpital pour pouvoir documenter ce qui se passe à l'intérieur de l'institution, mais aussi comment ça se passe avec leur famille, comment leur corps changeait. Et elle a vraiment fait un travail avec une adresse à différentes personnes, autant aux malades que au système hospitalier, où elle a beaucoup parlé dans son travail de la question du droit, en fait, du droit et de la nécessité aussi d'être bien informée sur les traitements qui nous sont promulgués, les protocoles, ne pas être qu'un lieu de passage de la santé, mais aussi d'être informé et de pouvoir être actif au moins dans le sens de l'information. Et puis elle s'est aussi adressée dans tous ses travaux de la photothérapie. Il y a une pièce qu'on montre dans l'exposition où elle compare en fait la pratique du portrait et la pratique de la photothérapie. Donc elle s'adresse aussi à ses confrères et consoeurs photographes par rapport à en fait qu'est-ce que c'est que représenter l'image d'un corps, parce que c'est aussi une grande question. Est-ce qu'on doit tout le temps dans la photographie être dans un rapport de performativité de quelque chose de positif? Est-ce qu'on a aussi le droit de montrer des images de faiblesse? Donc voilà, c'est assez intéressant, et ça rejoint aussi des questions qui sont toujours actives en fait. Donc comment on se représente avec un corps malade?
Donc après, on a aussi ici dans à l'étage de l'exposition un travail de Marianne Derrien, qui elle aussi est curatrice et qui donc s'expose aussi en tant qu'artiste ici. Est-ce que c'est la première fois?
Alors, ce qui s'est passé, c'est que oui, je pense que c'est la première fois qu'elle s'expose en tant que personne qui produit un objet artistique. En fait, pendant la préparation de cette exposition, j'ai eu une phase de recherche, de travail autour de Jospens à Londres, mais j'ai aussi voulu monter un groupe qui était un peu des amies parleuses. Donc on s'est retrouvés au mois de mai chez moi avec plusieurs personnes, certaines qui sont des amies, d'autres qui ne se connaissaient pas du tout, qui travaillent relativement dans le même milieu, parce qu'il y a aussi, avec ces questions de santé, il y a aussi une vraie question de rapport au travail et à la société, en fait, comment on gère les rapports de l'énergie, de comment on arrive à travailler avec la fatigue chronique, comment on arrive à slalomer avec les institutions, les obligations de travail quand on suit des traitements hormonaux. Ou des traitements différents. Donc voilà, c'était important aussi de parler de ce rapport politique à la quotidienneté de la maladie. Et donc on s'est retrouvés chez moi au mois de mai pendant plusieurs jours pour discuter de ça. Et Marianne Derrien était là. Et j'ai proposé à chacune de participer à l'exposition sous la forme qu'elle souhaitait. Et on était quand même quatre commissaires d'exposition et une artiste. Et Marianne Derrien m'a fait cette proposition, en fait, de produire ces textes karaoké, donc vraiment avec une esthétique très cheap, hein, mais dans le sens positif du terme. Moi, je les aime beaucoup. Et qui reprennent des sujets en fait qui sont extrêmement quotidiens et universels pour les personnes qui doivent par exemple gérer la douleur, gérer les traitements, gérer la quotidienneté. Donc voilà, donc c'est sous une forme de karaoké sans son, ce qui fait qu'en fait chacun et chacune se crée son air de lutte, de comment on chanterait ça. Voilà, donc je trouve que ces vidéos sont géniales parce que quand on les regarde, je pense qu'elles peuvent évoquer à chacun et chacune des événements de la vie.
Alors, je comptais quatre écrans de l'exposition. Est-ce que c'est juste?
Ouais.
Et c'est à chaque fois une chanson ou c'est plusieurs chansons sur...
C'est à chaque fois une chanson différente. C'est à chaque fois une chanson différente. Il y en a une qui est en bas sur la PMA, il y en a une sur la douleur, il y en a une... Je lis aussi des choses... je projette. En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a ce qui est écrit, mais il y a ce qu'on peut projeter aussi dans ce qu'on lit.
Donc là, le titre de une des, c'est des
Dolores hormonales.
Exact. Une bouche salive, noire de bille, mon stomac gratte, rote, vite vite, de la ventoline, calme les spasmes, hop hop, en comprimé. Dolores hormonale, Dolores, 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 c'est le refrain, je pense.
Ouais, c'est ça. C'est le... Et puis, il y a un côté assez... on imagine, parce que chacune des les chansons, c'est inscrit dans la feuille de salle. Marianne nous a donné un petit texte où elle dédie ses chansons à des médecins, à des médicaments, à des groupes de punk adolescents. Donc, ça réactive aussi, je pense... plein de sentiments et de choses qui traversent nos vies.
Alors, il y a aussi une autre pièce ici qui nous entoure. Alors, on est même assis au milieu. C'est, on est à l'instant assis sur un tapis violet. Derrière toi, Georgia, il y a une sculpture molle, grise, qui est allongée et qui finit par... un bulbe, alors peut-être c'est une trempe.
Non, c'est une cuillère.
Une cuillère, voilà.
Une cuillère.
Et derrière, il y a d'autres objets. Peut-être on peut s'élever et regarder ce que c'est.
Ah, bien sûr.
Il y a aussi des peintures murales.
Alors, donc pour cette pièce, j'ai invité l'artiste belge Laurie Charles en fait, à produire une installation... dans le second étage de l'exposition. Donc c'est une installation qui s'appelle Le repos des organes, qui est un salon, on va dire, un salon avec trois fauteuils, un canapé, une table basse, où on trouve un intestin, un cœur, un rein et un poumon. En train de se reposer tranquillement autour de la table sur laquelle il y a deux cuillères posées. Autour de cette installation, la pièce est entièrement peinte dans un violet mauve où on retrouve des motifs qui sont récurrents dans le travail de Laurie Charles, des pilules, des cuillères, des organes volants, des mains, des utérus.
Avec des yeux.
Avec des yeux. Donc il y a quand même beaucoup d'utérus qui nous regardent et qui regardent ces organes se reposer. Et un personnage qui représente le corps de l'artiste, qui est peint en violet, avec quelques yeux dessus et des seins. Et les organes qui sont en train de se promener, en fait, tout autour dans l'installation. Laurie Charles, elle travaille sur la question aussi de la représentation du corps malade et de sa narration depuis quelques années. Ici, le repos des organes, c'était vraiment une manière de répondre aussi à l'injonction capitaliste, productiviste qu'on demande au corps. C'est-à-dire que même si on est malade, il faut toujours être en action, il faut toujours se présenter dans une espèce de... positivité, avoir l'air bien, comme la photo que Joe Spence en bas, à quoi je suis censée ressembler quand je suis malade, qui est vraiment une vraie question. Et donc là, ici dans cette installation, les organes se mettent au repos, on leur laisse le temps de se régénérer, de sortir du monde, pour permettre aux gens soit de ne pas avoir de vitalité, soit d'avoir le temps qu'elles reviennent, mais en tout cas loin de l'injonction à tout le temps, mieux, mieux, mieux. Ce rapport à l'énergie, à la vitalité, elle est aussi très présente dans le travail de Laurie par ces petites cuillères qui volent toujours un peu partout, des grandes petites cuillères sur lesquelles on s'assoit, les petites cuillères sur la table. En fait, la petite cuillère est là parce que ça vient d'une pratique qui est utilisée par les personnes qui ont des maladies chroniques, auto-immunes, pour quantifier leur énergie. Ça s'appelle la spoon theory, la théorie de la petite cuillère. Et donc, on considère qu'une personne, quand elle se lève, elle peut se figurer son énergie. J'ai 10 petites cuillères aujourd'hui pour faire tout ce que j'ai. Malheureusement, il y a des personnes qui se réveillent le matin et elles ont 3 petites cuillères d'énergie. Et c'est vraiment une manière, en fait, de rendre visible physiquement la question de l'énergie et de la disponibilité. Donc c'est une manière aussi de parler à son interlocuteur. Alors bien sûr, tout le monde ne sait pas qu'on peut compter notre relation au monde en petite cuillère, mais c'est une manière vraiment de visualiser ce rapport à l'énergie.
Et peut-être aussi de se préserver soi-même. Si on sait qu'on a un certain nombre de cuillères, on ne va peut-être pas se surmener.
Voilà, bah, c'est une manière aussi de s'organiser, de se dire voilà, comment je vais faire aujourd'hui pour faire la vaisselle, porter les affaires, travailler, faire les entretiens, faire les visites, faire toutes les questions administratives. Avec, je dirais aujourd'hui pour moi, 3 petites cuillères et demie.
Oh, okay.
Et c'est assez drôle parce qu'on parle du fait qu'on se figure 10 petites cuillères par jour. Mais dans le texte en bas, je cite un médecin de la douleur qui m'a dit il y a quelques mois, alors vous êtes au courant, la douleur et l'inflammation travaillent la nuit. Et je me disais, mais alors notre corps n'est donc jamais au repos. Parce que souvent les personnes en fait se réveillent avec une fatigue et une douleur plus intense le matin. Et visiblement le corps travaille sur la douleur qu'il a et toutes les choses qu'il a englobées la journée, la nuit.
Ok.
Voilà, la douleur travaille la nuit.
Quand on descendra, on va s'arrêter aussi devant ta pièce,
ouais,
une deuxième fois,
d'accord,
pour parler un peu des textes,
ouais,
pour entrer
d'accord
en détail. Ça te convient si on descend ?
Oui, avec plaisir.
Ouais.
Je te laisse.
Et donc là, on longe déjà une pièce, hein, quand on descend cet escalier en colimaçon.
Oui. Alors, c'est une pièce de Tania Nissensen, qui est une artiste qui est basée à Berlin, qui, à mon avis, et comme moi, née à la fin des années 80, au début des années 90. Et cette pièce, c'est vraiment le vertige, la petite bête qui nous démange quand on se retrouve dans une salle d'attente chez le médecin. Et qu'est-ce qui se passe dans notre tête sur ce moment où en fait on est avant un moment de prescription, avant un moment de diagnostic? Et comment nos pensées montent comme ça, en spirale d'ailleurs, comme l'escalier, dans notre tête jusqu'à être interrompue par le médecin qui nous appelle. Donc c'est une sorte de divagation un peu fantasque qui est un mix entre un rapport, une métaphore entre le rapport au moment où on prend des médicaments et on les ingère et aussi le moment où on attend, le moment du passage de quelque chose qui va faire effet.
Donc c'est des mots en forme de lettres en bois qui étaient découpées et qu'on peut lire ensemble mais aussi séparément. Donc on voit fungal, infection, toe, another, outdated. Donc il y a comme ça des mots qui se baladent,
ouais,
une monde à l'étage. Quelques lettres aussi qui se trouvent ailleurs.
Ouais. Mais en fait, il y avait vraiment l'idée. Normalement, l'exposition se visite dans le sens en fait en bas et ensuite on monte. Et il y avait vraiment l'idée que cette pièce accompagne le corps qui vogue comme ça dans l'espace jusqu'à arriver dans les organes qui se reposent. Donc c'est vraiment une le moment un peu de flottement, de doute, les pensées qui tournent et d'un seul coup les organes qui prennent l'espace parce que l'exposition en bas elle est vraiment quand même assez tournée autour du mot, autour de l'écriture et en haut, ici c'est vraiment la narration et en haut c'est vraiment d'un seul coup l'explosion, le corps qui de manière très, très pop, même vu les couleurs, s'installe et se déploie dans le lieu, en fait.
Alors là, il y a tout de même aussi en bas quelques corps qui se sont installés, ou sont affaissés,
ouais.
Ils se reposent aussi. Donc là, on est devant une sculpture de l'artiste belge.
Ouais. Marianne Bereno. Mm-hmm. Donc Marianne Bereno, c'est exactement la même génération que Joe Spence. Je voyais ça, elles sont nées toutes les deux en 1934. Alors Marianne Bereno, c'était vraiment... parce qu'on n'est pas dans une exposition qui est forcément littérale, c'est-à-dire que les personnes qui sont dans cette exposition ont des expériences effectivement traumatiques, mais pas nécessairement que des relations aux maladies hormonodépendantes. Et Marianne Béréneau, pour moi, ces sculptures donc, qui sont faites uniquement de collants. Donc, c'est elles s'appellent les poupées poubelles et elles prennent forme par un amoncellement très, très concentré de collants à l'intérieur d'une autre paire de collants. Et elles représentent des corps, pour moi, c'est des corps en attente. Je pense que celle-ci, par exemple, qui est assise, un peu affaissée, pour moi, elle représente un corps en attente. Celle qui est plus au fond sur le fauteuil en velours, il y a presque le côté d'un corps accompagnant, par exemple un corps assis à côté d'une personne qui serait hospitalisée, mais en tout cas un corps qui prend soin. Et puis il y a la grande sculpture, la grande poupée poubelle rose qui est fière, qui est érigée. Donc pour moi, c'est plusieurs formes d'exposition des sentiments du corps. Et Marianne Béréneau, ouais, c'est des pièces qui datent du début des années 70. Elle avait une pratique, donc Marianne Béréneau, elle a eu une formation d'infirmière. Elle a fait les beaux-arts à Bruxelles. Elle travaillait plutôt des matières rigides. Et elle a eu un jour, en fait, un accident qui a fait qu'elle n'avait plus la possibilité de manipuler des matériaux aussi lourds. Donc les poupées poubelles, elles sont aussi arrivées à ce moment-là, et ça c'est quelque chose qui m'intéresse, c'est en fait avec des changements de rapport à la santé, en fait, par rapport à l'énergie, par rapport à ce qu'on peut mobiliser au quotidien, comment ça impacte nos pratiques professionnelles, nos pratiques sociales, mais aussi nos pratiques artistiques. Donc pour moi, le travail de Marianne Béréneau, il était aussi intéressant pour ça, en fait, comment à un moment ça opère un changement dans une pratique artistique.
Et donc là, on est devant une poupée qui est constituée principalement d'un tronc et des jambes. C'est souvent comme ça chez elle, d'ailleurs.
Oui, effectivement.
On parle de poupée, mais en réalité, c'est un corps coupé, ou en tout cas, le centre, c'est vraiment le tronc, Enfin, il y a quelque chose de très concentré comme ça au centre, et les jambes molles comme ça qui sont assises sur une chaise, et sortent de plein des collants sortent comme ça du corps. C'est très beau.
Ouais, moi je suis très très heureuse qu'on ait la possibilité de montrer ces pièces là, parce que le travail de Marianne Béréneau, il n'a pas été énormément montré, on va dire, entre les années 70 et les années 2020, quand même, hein, parce que... Mais c'est un travail qui commence à être montré pas mal en Belgique. Elle a eu une exposition au Musée Juif, parce que, bon, je n'en parle pas dans l'exposition, mais Marianne Béréneau, elle a aussi une histoire... très importante par rapport à sa judaïcité. C'est quelqu'un qui a vécu de manière extrêmement violente la Shoah, qui a été déracinée. Donc il y a une histoire aussi du traumatisme politique et identitaire qui est très présent dans son travail. Et c'est bien qu'on puisse le montrer aussi avec différentes générations, différentes histoires.
Oui. Et donc, à côté de cette sculpture, qui est déjà posée à moitié sur un tapis, on se retrouve dans ton installation. Est-ce qu'on peut dire installation, d'ailleurs ?
Alors, je pense que oui, parce que c'est quand même composé de différents éléments. À la base, le projet, c'était essentiellement cette structure, ce grand livre avec ses poèmes. Après, il y avait vraiment aussi la nécessité de rendre cette pièce praticable, un lieu aussi d'intimité, parce que c'est un grand livre, mais on pourrait aussi dire simplement que c'est un paravent. Au sol, j'ai fait le choix d'installer cette moquette rose que moi j'appelle une flaque. Alors chacun se figurera une flaque de quoi ça peut être, chacun selon ses expériences et ce qu'on a vu et ce qu'on a vécu, parfois menstruellement. Donc il y a ce jeu un peu humoristique avec cette flaque, et puis une installation de coussins, en fait, simplement pour qu'on puisse se poser, s'allonger, qu'on puisse lire en étant au sol. et puis possiblement accueillir des gens s'ils ont envie de discuter dans un espace un peu intime, protégé de la vue de la rue.
Lors de la prochaine émission, nous allons retrouver Georgia Renevorms qui continuera à nous faire la visite à l'exposition « Nos corps anarchiques ». À la semaine prochaine! Grammaire fantôme. Grammaire fantôme. Grammaire fantôme. Une émission par Nadia Lichtig.